Riviera Ferraille.
Français, un phare hanté, les ovnis du Troisième Reich, un village endormi. Ce sont nos dossiers du jour dans le Bureau des Mystères.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le Bureau des Mystères, je suis Mathias.
Et je suis Charles. Et pour commencer ce nouvel épisode du Bureau des Mystères, on voulait vous remercier. On voulait vous remercier en particulier pour l'épisode qu'on a fait avec nos amis québécois de Distorsion. Vous nous avez envoyé plein de gentils messages. Donc merci à vous. Et surtout, bonjour. Bonjour et bienvenue à nos nouveaux auditeurs qui du coup sont québécois ou canadiens. Donc bonjour à vous et bienvenue. Bienvenue dans le Bureau des Mystères.
Oui, on sait que vous êtes nombreux, hein, que vous nous avez peut-être découvert avec Distorsion, parce qu'on a fait un épisode chez eux, un épisode chez nous, hein, on a fait une très belle collaboration ensemble. En revanche, on a bien remarqué que le son était un petit peu différent d'habitude, hein, donc on est désolé pour l'épisode qu'il y a eu la dernière fois. Rassurez-vous, notre son habituel revient dès cet épisode. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les Québécois, hein, qu'on veut évoquer dans cette introduction aujourd'hui. J'ai envie de remercier encore une fois tous nos auditeurs français qui nous envoient toujours plus de messages, ça nous fait vraiment plaisir. Et surtout, ça touche toutes les générations, c'est ça qui me touche beaucoup. On a reçu, dis-toi Charles, un message d'une grand-mère récemment. Oh. Qui nous a dit qu'elle nous écoutait, donc comme quoi on ne touche pas que les jeunes, on ne touche pas voilà, que les 20-30 ans, qui sont les gens qui écoutent le plus de podcasts, on va pas se mentir, mais on touche vraiment toutes les générations, et ça me fait très 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 plaisir.
Et ben bonjour à vous aussi madame. Et ce soir, en ce qui me concerne, pas de Lyon, pas de CIA, aujourd'hui, promis, je vais lâcher mes petites histoires habituelles, puisque je vais vous raconter deux histoires qui nous ont été suggérées par des auditeurs, et plus précisément même des auditrices. Une petite histoire sur un petit village qui a des problèmes de sommeil, hein, qui nous a été envoyé et suggéré par Facebook par Patricia Robert, et une autre histoire, celle d'une base secrète basée dans un endroit où il fait froid, qui nous a été envoyée par Colombe Titouan sur Twitter, donc merci à vous deux.
Eh bien, on va écouter ces dossiers maintenant.
Allez, c'est parti.
Le phare qui rend fou. Au large de la pointe du Raz, dans le Finistère, se dresse au-dessus des flots déchaînés le phare de Thévenec. Un purgatoire entre le ciel et la mer, balayé par la houle et le vent, où les fantômes et la folie se mêleraient au fracas des vagues. Alors tout d'abord, bienvenue en Bretagne. Je vous emmène visiter Thévenec, qui est un des phares les plus mystérieux de la mer d'Iroise. C'est un îlot inhospitalier, situé au large de la pointe du Raz, dans le Finistère. C'est un lieu infernal. Quand la tempête se lève, les vagues passent parfois au-dessus des toits. C'est un petit bout de rocher sur lequel il y a une petite maison phare d'environ 9 mètres sur 7, où il y a une croix qui a été dressée là au 19e siècle, qui a la dure mission de chasser les mauvais esprits et les fantômes que la mer transporte. En fait, à l'époque où la plupart des phares n'étaient pas encore automatiques, il existait trois types de phares. Dans le langage des gardiens de phares, en tout cas, on parlait de trois types de phares. Il y avait d'abord les paradis. Les paradis, c'était les phares qu'il y avait sur Terre. Donc on y avait plutôt la vie douce, c'est pour ça qu'on les appelait les paradis. Il y avait aussi les purgatoires qui étaient sur une île ou sur un îlot, et les enfers qui étaient plantés en pleine mer.
Clairement, il y a des phares qui font envie et des phares qui font moins envie.
Exactement, d'où cette classification interne chez les gardiens de phares. Et le phare de Thévenec, il est un peu spécial parce que officiellement c'est un purgatoire, parce qu'il est construit sur un petit îlot, mais dans les faits, c'est un enfer. C'est un tout petit îlot balayé par le vent en pleine mer. Et tu vas voir que l'expression enfer, ça lui convient parfaitement à ce phare. Parce que bien avant la construction du phare, Thévenec avait déjà mauvaise réputation. En fait, les légendes locales disent que c'était l'antre de ce qu'on appelle l'Ankou. L'Ankou, chez les Bretons, c'est la personnification de la mort, dans les légendes bretonnes. Il y a une explication à pourquoi est-ce qu'on disait que c'était l'antre de l'Ankou. C'est parce qu'en fait, il faut savoir que quand une embarcation navigue sans moteur dans le Ratsin, donc le Ratsin, c'est ce qu'il y a... Entre l'île de Saint et la pointe du Raz, le courant l'emporte vers le rocher de Thévenec. Et donc forcément, beaucoup de marins sont morts, emportés par le courant. Ils se sont échoués vers Thévenec, et c'est pour ça que le lieu a acquis cette réputation sinistre. Et quand on entame la construction du phare en 1869, et ben forcément, il se passe des choses. On imagine peut-être des choses. En tout cas, la légende dit que les ouvriers étaient terrorisés. Il paraît que les ouvriers entendaient des choses étranges la nuit, comme des hurlements de terreur, des bruits de bagarre et même des rires déments. Ils voyaient parfois de pâles lueurs sur les rochers, et ils pensaient même assister à des phénomènes diaboliques. Comme s'il y avait des voix qui venaient des profondeurs, et qui leur disaient de fuir. Ces voix leur disaient en breton « Va-t'en, va-t'en, ici, c'est ma place ». Le phare a finalement été allumé 5 ans plus tard, en 1874, et on y revoyait forcément un gardien qui s'est retrouvé seul dans cette petite maison. Il s'est retrouvé seul à errer entre la petite cuisine, le grenier, les deux chambres minuscules de cette maison phare au milieu de nulle part. Et entre l'isolement et les histoires qui courent sur le lieu, il y a forcément de quoi devenir fou. Et bien selon la légende qui entoure Thévenec, c'est précisément ce qui s'est passé. En tout, il y a 23 gardiens qui se sont succédés en 35 ans.
Ah ouais, quand même.
On raconte qu'ils ont tous entendu des bruits étranges dans la nuit, comme des râles qui venaient des profondeurs.
Alors qu'en fait, c'était juste Nolwenn le roi.
qui était là sur une embarcation faire prima. Non, c'était pas ça. Parce que les légendes locales disent que ce n'était pas Nolwenn le roi, mais les squelettes des naufragés, ballottés par les flots, qui demandaient une sépulture. Et en entendant les voix de ces naufragés, la plupart des gardiens seraient devenus fous. Sur les 23 gardiens qu'il y a eu en 35 ans, beaucoup ont démissionné, selon les légendes. Certains y seraient morts, d'autres seraient devenus fous. Tout ça, c'est ce qui se raconte, hein, que je vous dis bien évidemment, on arrivera dans les faits un petit peu plus tard. Mais voilà ce qui se raconte en tout cas. Il paraît que Henri Guesnec, le premier gardien de phare, aurait sombré dans la folie, hanté par ces fameuses voix des esprits qu'il entendait la nuit. Alain Menou, le deuxième, aurait résisté pendant un an avant de perdre lui aussi la raison. Et quelques années plus tard, un gardien auxiliaire du nom de Millénaire serait mort sans qu'on puisse venir lui porter secours. Ses appels à l'aide auraient résonné dans le vide, écrasés dans le fracas des vagues autour du phare. Cela est très poétique.
Oui, c'est ce que j'allais te dire.
Alexis Kerbiriou, un autre garde, serait mort, lui, dans les bras du gardien qui venait faire la relève. Un autre gardien, seul sur le phare, serait mystérieusement tombé sur un couteau. Et il se serait sectionné l'artère fémorale avant de se vider de son sang sur le rocher, seul.
Et avant de déclarer « monde de merde
». Et enfin, puisqu'il y a beaucoup de mauvaises ondes autour de ce phare, un autre gardien serait mort dans les bras de sa femme, et en attendant que la relève vienne pour récupérer son corps, son épouse aurait eu la curieuse idée de vider ses entrailles et de conserver son cadavre dans du sel.
Ah oui, quelle curiosité. Elle voulait voir comment s'était fait un humain dedans.
Je ne sais pas. C'est a priori pour bien conserver le cadavre, parce que la relève, dans ces cas-là, n'arrive pas en quelques jours. Ça met beaucoup de temps. Et des histoires comme ça, des histoires atroces, il y en a beaucoup autour de Thévenec, et il y en a eu jusqu'en 1910, l'année où l'administration a enfin décidé d'automatiser le phare. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que ces histoires sont vraies ? Évidemment, c'est la question qu'on se pose. Eh bien, comme dans, j'ai envie de dire, 100% des cas, eh oui. Eh bien, je pense que je vais devoir briser vos rêves.
Telles les vagues sur la falaise.
Telles les vagues sur la falaise. C'est pas moi qui vais briser le rêve, c'est Jean-Christophe Fichou qui va briser ça. Jean-Christophe Fichou, c'est un agrégé, docteur en géographie, docteur habilité en histoire contemporaine, qui travaille à l'université de Brest et qui nous dit que tout ceci est faux. Et c'est quelqu'un qui connaît bien le sujet, puisque dans ses sujets de recherche, il y a notamment la vie des marins et la vie des gardiens de phare. Et il a lui-même colporté cette légende dans un de ses premiers livres. Et c'est en fouillant dans les archives locales, donc des différents gardiens de phare qui sont succédés à Thévenec, qu'il s'est rendu compte que la réputation du lieu se basait sur des histoires qui étaient complètement démontables. En fait, il a sorti un autre livre qui s'appelle « Gardien de phare 1798-1939 », sur un titre de livre de personne qui travaille à l'université.
Clairement.
Il explique que personne n'est devenu fou sur le phare. En fait, il dit que la plupart des gardiens qui ont travaillé à Thévenec ont travaillé ensuite dans d'autres phares par la suite, ou bien qu'ils ont travaillé dans l'administration. Et c'est le cas notamment de Guéznec, qui était considéré comme le premier, mais qui en fait n'était pas le premier, c'était, je ne sais plus combien, troisième ou quatrième, ou de Menou. Ces personnes-là ont travaillé ensuite dans l'administration et dans d'autres phares, et ne sont pas du tout mortes, ou n'ont pas sombré dans la folie, comme le dit la légende. Il y a un cas, en tout cas particulier, il y a une seule personne en fait qui est morte sur le phare, officiellement. Cette personne, c'est Alexis Kerviliou, donc j'en ai parlé tout à l'heure, qui serait mystérieusement mort dans les bras du gardien qui venait le relever. Bien, en fait, il faut savoir que ce monsieur avait déjà, avant d'arriver à Thévenec, mauvaise réputation. Il était alcoolique, il avait tendance à chercher un petit peu la bagarre, et on l'avait envoyé à Thévenec en guise de mesure disciplinaire.
D'accord, ce qu'on dit long sur le phare.
Voilà, et ce monsieur, oui, c'est ça, en fait, avant, il travaillait dans un paradis, et visiblement, ça se passait très mal. Et donc, on a décidé de le punir en l'envoyant à Thévenec. Et en fait, il y est mort, mais à cause en partie de son alcoolisme, à cause également de sa mauvaise condition physique, c'était quelqu'un qui était décrit comme assez faible physiquement. Donc il y est mort, mais c'est bien le seul, et en fait, sa mort n'a surpris personne à l'époque, puisque tout le monde se disait, ce Kerviliou, il va finir par claquer.
D'accord, oh, c'est pas sympa ça.
Donc voilà, c'est lui, il n'y a pas eu de mystère en fait autour de sa mort à l'époque, tout le monde se disait que, bon bah, ouais, vu son train de vie, forcément, il allait finir par mourir. Il y a eu une autre mort curieuse également, d'un gardien de Thévenec, mais en fait il n'est pas mort à Thévenec, et encore moins dans les bras de sa femme, c'est Henri Milliner, mais en revanche lui il a eu une mort assez terrible. Il est bien mort, mais en 1911, à Quimper, et après un terrible accident dans un autre phare, le phare d'Ecmoul, en fait il voulait accrocher le drapeau français pour le 14 juillet, il est tombé, et il a entraîné dans sa chute un bloc de pierre, donc déjà pas de chance, et encore pas de chance, le bloc lui est tombé dessus, lui a brisé une jambe et les deux genoux, et il est mort quelques jours plus tard des suites de ses blessures à l'hôpital de Quimper.
C'est une belle morale, ça.
C'est triste, hein. Donc voilà, mais c'est... Voilà, donc cette personne-là, bien qu'on dit « Oh, regardez, il est mort à Thévenec, ça fait partie de la légende », en fait, oui, il est bien mort dans à cause d'un accident sur un phare, mais non, il est mort à l'hôpital de Quimper en 1911, et donc après l'automatisation du phare, hein, pour rappel. Donc voilà, absolument rien à voir. S'il fallait le préciser, personne n'est réellement tombé sur des couteaux. En tout cas, c'est pas dans les registres non plus. Il n'y a pas de gardien qui s'est vidé de son sang en tombant sur un couteau. Et il y a un truc que je trouve assez fascinant, c'est ces fameuses voix qui reviennent tout le temps, ces voix qui semblent venir des profondeurs, qui leur disent de fuir. Et bien en fait, dans les années 2000, il y a des plongeurs qui sont allés à Thévenec et qui ont découvert un passage sous-marin qui traverse le rocher à 20 mètres de profondeur. Et en fait, quand la marée est forte, le passage de l'eau provoque ces bruits étranges qui ressemblent à peu près à la manière dont on dit « va-t'en » en breton.
Waouh !
Donc en fait, ces voix qui viendraient des profondeurs, en fait, c'est tout simplement ce mouvement d'eau qui se passe dans le passage sous-marin.
D'accord.
Et qui fait des bruits étranges.
Ah ouais.
Et donc, il y a un autre monsieur dont je vais te parler maintenant qui s'appelle Marc Pointu, qui est le président de la Société Nationale pour le Patrimoine des Phares et Balises. Ce monsieur explique aussi que voilà, il y a aussi les bruits des oiseaux, qu'il y a les bruits des fracas des vagues contre les rochers, et que tout ça mélangé, quand on est tout seul, ça crée un univers sonore très étrange, quoi. Donc forcément, bah, quand on passe une nuit seul là-bas, on peut se dire que il y a peut-être des esprits, surtout quand l'histoire, surtout quand les légendes sont aussi tenaces, quoi, autour du lieu. On est préparé mentalement à essayer de voir ça. Mais Marc Pointu, lui, il sait que tout ça, c'est du folklore. Et il a décidé d'y passer 60 jours tout seul en 2015. Et en vrai, à part des milliers de cloportes de mer qui infestent la maison, il a rien vu.
Ah.
Il a dit dans des interviews qu'il a données après, il a même écrit un livre sur le sujet, qu'il n'a vu personne, pas de fantômes, mais qu'il a bien entendu des bruits un petit peu étranges, 3-4 nuits de suite, mais que pour lui, ces bruits ont forcément une explication rationnelle, c'est juste qu'il n'a pas trouvé quelle explication, mais qu'il y en a forcément une de rationnelle. Lui ne croit pas du tout au surnaturel. Et il y a un youtubeur dont j'avais parlé dans l'épisode qu'on a fait avec Distorsion, chez Distorsion, qui s'appelle Mami Twink, qui est un monsieur qui fait de l'urbex, qui est allé lui aussi avec Marc Pointu, il y a passé une nuit, et lui non plus n'a rien constaté d'étrange, quoi. Et si Marc Pointu va à ce point souvent sur le phare, et s'il y est allé 60 jours comme ça pour faire parler de lui, c'est parce qu'il veut réhabiliter le phare aujourd'hui, il aimerait bien récolter des fonds et en faire une maison d'artiste. C'est-à-dire aller, voilà, pouvoir aller passer une nuit ou quelques jours à Thévenec pour travailler sur son art. Donc c'est plutôt un beau projet que je ne peux personnellement que soutenir, car j'ai très envie d'aller écrire un bureau des mystères là-bas.
Tout en haut. Ah bah ouais, c'est une belle histoire en effet. c'est une belle, qui a une, en plus, il y a une belle fin et qui a du coup un niveau de mystère qui est assez faible maintenant.
Oui, aujourd'hui, ce n'est pas très élevé parce qu'en fait, tout est explicable. En fait, c'est des gens qui n'ont pas trop supporté la solitude, une explication donc géologique avec ce. Ouais. Avec cette voie sous-marine juste en dessous, les conditions météo, en fait, voilà, ouais, tout est explicable. Et c'est pour ça que, pour moi, on peut classer l'affaire, même si ça reste une très belle légende locale.
En effet, c'en est une. Eh bien, j'ai envie de dire, affaire classée.
Affaire classée.
La base secrète des nazis. Les nazis ont-ils construit une base secrète en Antarctique ? Ont-ils stocké des œuvres d'art européennes sous la glace ? Ce sont des rumeurs tenaces depuis plusieurs décennies. Elles sont particulièrement difficiles à contredire, Mathias, puisque pour le commun des mortels, l'Antarctique n'est pas une destination particulièrement prisée ni très connue.
Alors déjà, avant que tu commences, je tiens à dire que je suis très heureux que tu nous parles de nazis. Parce que ça faisait longtemps que j'avais envie qu'on parle de trucs étranges des nazis dans cette émission. Ah et je suis très content que tu commences par cette histoire-là, qui est fabuleuse.
Et il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Il peut y en avoir beaucoup. Hein. Mais là, pour le moment, on va voyager dans le temps pour atterrir en 1939. Nous sommes juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne nazie a organisé une expédition en Antarctique. La mission avait pour but stratégique de ne pas laisser la Norvège et la Grande-Bretagne seules gérer les eaux proches du glacier, puisque c'est à cet endroit-là, notamment du monde, qu'il y a beaucoup de baleines. Et alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, la chasse à la baleine était un business suffisamment lucratif pour intéresser les nazis. En parallèle, ils voulaient s'y installer pour pouvoir ensuite demander de manière légale, en s'y installant, une portion du territoire, si cela était possible, pour potentiellement après y construire une base pour leur flotte.
Alors,
et notamment pour leur flotte baleinière.
Jusqu'ici, tout est vrai.
Jusqu'ici, tout est vrai.
Nous ne sommes pas encore dans la théorie du complot, parce que je la sens venir. Je sens venir son bruit des bottes de loin, la théorie du complot.
Oui, oui.
Et ben, pour le moment, tout est vrai.
Pour le moment, tout est vrai. À partir de ça, à partir de cette expédition, des histoires vont circuler. Pendant cette expédition, les nazis en auraient profité pour construire une base secrète qui aurait potentiellement abrité Hitler. Ces histoires vont être renforcées notamment par le fait que, 2 mois après la fin de la guerre, un sous-marin allemand a accosté près d'une base navale en Argentine. En termes de distance, c'est à peu près crédible, en fait. C'est tout à fait crédible que si le sous-marin est accosté en Argentine, il puisse venir de l'Antarctique. C'est un Hongrois, un monsieur hongrois, exilé en Argentine, apparemment témoin de l'accostage, ou du mouillage d'ailleurs, on devrait dire peut-être, du mouillage du sous-marin, qui va écrire un ouvrage, cet ouvrage qui va être publié en 1947, un ouvrage intitulé, attention, je sais que Hitler est vivant.
Tu vois, je la sentais venir, la théorie du complot. Je la sentais venir, mais je la sentais toute proche. Eh bien,
sous-titré,
elle est là.
Sous-titré, ramenez-le vivant.
Une petite dédicace à SAS.
À SAS, mais non, je ne veux pas véhiculer mes propres fake news. Hein. Il n'y a pas de sous-titre, ramenez-le vivant. Mais le titre du livre, et ce livre est bien sorti, s'intitule donc « Je sais que Hitler est vivant ».
Ce qui est un super titre de livre, en vrai.
Ah, c'est tu vois, c'est putaclic avant le clic.
Ah, mais tu mets ça en tête de gondole à la FNAC.
Ah ouais, ça fait un carton.
Par contre, quelque chose me dit que son livre n'a pas très bien marché, en revanche.
Ah bah, j'ai pas les chiffres de vente, je t'avoue. J'ai pas vérifié. Mais je sais pas, écoute. Moi, je pense que quand même, ça a pu être un best-seller à un moment donné. Parce qu'à partir de là, il a quand même suffisamment circulé pour que des journaux de différents pays se mettent à raconter des histoires sans nécessairement les vérifier, notamment une qui prétend que le sous-marin arrivé, donc 2 mois après la fin de la guerre en Argentine, aurait transporté Hitler avec quelques hauts fonctionnaires allemands jusqu'à la fameuse base secrète du pôle sud. Autre rumeur, toujours liée à l'Antarctique, celle de la dissimulation de technologie. puisque la base, potentiellement construite en Antarctique, du coup, selon les rumeurs, aurait servi à cacher de la technologie, c'est-à-dire que les nazis, voyant la défaite arriver, ils auraient caché leur technologie la plus avancée pour qu'elle ne tombe pas entre les mains des Américains et des Européens. J'ai envie de dire, on n'en a toujours pas vu la couleur, c'est sûr, hein, parce qu'on est en 2018 et qu'on n'a toujours pas de voiture volante.
Donc, ah, parce que c'est de ça dont c'est... il est question. Là voilà. on parle de voiture volante.
Bah écoute, apparemment, je vais y revenir après, mais ça aurait été une technologie suffisamment avancée pour avoir des bolides de désert vraiment performants qui se déplacent sans bruit, sans nécessité d'un long décollage, ni rien. Hein. On est sur de l'OVNI nazi, hein. On est sur de l'OVNI nazi.
On dirait un truc de film rétro-futuriste.
Oui, exactement. Ouais.
cette genre autre Sucker rumeur, Punch, tu sais. Genre Sucker Punch avec les nazis et les mechas.
Ah
tu
oui,
vois.
J'avais oublié ce film. Merci de me le rappeler. En effet, ouais.
Regardez Sucker Punch.
Un peu de ça. C'est le film est pas rigolo, hein, en vrai. Mais il y a en effet des nazis et du rétro-futurisme. Cette autre rumeur, donc de la dissimulation de technologie, elle vient d'un autre ouvrage qui est intitulé UFO Nazi Secret Weapon.
Qui est aussi un super titre de livre.
aussi un très bon titre. Qui a été publié en 1975 et, tenez-vous bien, par une maison d'édition néo-nazie basée au Canada. Donc voilà, les néo-nazis sont les premiers vecteurs de circulation de leurs propres histoires. Et donc les histoires de ce livre paru en 75 viennent aussi se mêler à celles d'un autre intitulé Black Sun, qui lui a été publié en 2002 et qui affirme qu'il existe un dernier bataillon, enfin qu'il existait dans les années 70, un dernier bataillon nazi qui n'est pas tombé, et que ce bataillon, s'il n'est pas tombé, c'est parce qu'il utilise une force militaire ultra avancée que les nazis, en parallèle, contrôlerait ainsi une grande partie de l'Antarctique.
Oui, oui, c'est ça. Et en fait, ça s'appelle Hydra. Et, voilà. Et ils se battent contre les Avengers.
Et, voilà. Et c'est ça. Et il y a Iron Man qui va en Antarctique avec Captain America. C'est ça.
Ça fait très Hydra, hein, tout ça.
Ouais, c'est ça. Alors, évidemment, toutes ces histoires, hein, comme souvent les histoires qu'on vous raconte dans le Bureau des Mystères, sont en fait des théories du complot, hein, s'il est nécessaire de le rappeler. Comme souvent, tout part soit d'articles soi-disant journalistiques un peu farfelus, ou d'un bouquin, parfois d'un seul et unique bouquin même, hein, comme ça avait été le cas dans Harp, par exemple. Il y a un bouquin qui est à l'origine de la plupart des théories du complot. Là, il y en a plusieurs, mais en même temps, on parle des nazis, donc c'est assez logique.
Je pense aussi à ce dont tu parlais dans l'épisode de Noël, avec Donna Air qui...
Oui, bah oui, exactement.
Qui dit qu'elle a vu le traîneau du Père Noël, qui est en fait un ovni.
Voilà.
Écoutez cet épisode, très instructif.
Ici, on a un peu des deux. Ici, on a un petit peu des journaux qui véhiculent et des livres aussi. Hein. Mais heureusement, comme d'habitude, à chaque fois, il existe une personne qui passe sa vie à démentir ces fake news. Et ici, dans notre cas, dans l'histoire des ovnis nazis et de la base secrète nazie, notre héros à nous s'appelle Colin Summerhays. En plus d'avoir un nom très swag, Colin est géologue et océanographe, pardon, à l'université de Cambridge. Il est membre du Scott Polar Research Institute et il a notamment publié en 2006 un long article dans la revue scientifique Polar Review, en Angleterre donc, dans lequel il discute de ses théories du complot. Et cet article scientifique a été assez largement repris par un très bon article du Motherboard de Vice, dont s'inspire d'ailleurs cette chronique. Et là encore, on a un facteur un peu commun à toutes les théories du complot, c'est-à-dire que l'article de Colin Summerhays met en avant le fait que ces théories partent d'événements qui ont en effet eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a une base réelle, et notamment l'expédition de janvier 1939 de l'Allemagne nazie a effectivement eu lieu, et elle a duré en tout et pour tout un mois, et ça s'arrête là.
C'est un peu court pour construire une base et stocker des ovnis.
Et oui, et je vais y revenir après. En effet, les nazis ne sont jamais retournés en Antarctique après cette expédition. Même si un sous-marin nazi a aussi effectivement mouillé en Argentine, hein, rien ne dit qu'il est reparti en Antarctique pour cacher Hitler. Et en fait, de nombreux généraux nazis faits prisonniers après la Seconde Guerre mondiale ont donné des preuves assez irréfutables que toutes ces allégations étaient fausses. Si les rumeurs ont persisté, c'est aussi à cause d'une soi-disant opération secrète intitulée High Jump, qui aurait été menée par l'armée américaine en Antarctique en 1947, pour détruire la pseudo-base fantôme. En fait, cette opération, si elle a eu lieu, parce qu'elle est documentée de façon assez crédible, aurait en fait été un exercice militaire qui visait à préparer les soldats américains à une potentielle guerre contre les Russes sur des territoires glacés, et notamment sur le pôle Nord, parce que là on est au pôle Sud. Ça fait partie du discours des théoriciens du complot dans cette affaire. Les États-Unis et la Grande-Bretagne auraient tenté d'attaquer et de détruire cette soi-disant base nazie. Et ils seraient parvenus, selon ces mêmes théories, en 1958, en lâchant pas moins de 3 bombes atomiques sur la base.
Et en envoyant Captain America et Wonder Woman, évidemment.
Exactement. Et là encore, où on peut voir un petit peu des faits réels poindre derrière, c'est qu'il y a en effet eu des essais nucléaires en Antarctique, qui ont été menés par les États-Unis et par la Grande-Bretagne, sauf que ces essais nucléaires ont été réalisés à l'autre bout de la banquise et pas à l'endroit supposé de la base nazie. Donc ça a été réalisé absolument de l'autre côté. Colin Summerhays, du coup, appuie sur le fait que les constructions sont extrêmement difficiles. Hein, il est géologue et océanographe, donc voilà, c'est son domaine. Ces constructions, en fait, sont extrêmement difficiles dans ces zones, et que s'ils avaient voulu construire en dur, la quantité de bateaux et de matériel nécessaire et le temps que ça aurait demandé aurait, disons, empêché de le faire en toute discrétion. C'est-à-dire que quand t'as la moitié de la flotte d'un pays qui est mobilisée pour construire un gigantesque bunker qui doit stocker des dizaines de technologies secrètes, et ben ça se voit. Et en tout cas, ça ne peut pas se faire absolument comme ça en un mois, ce qui était le temps de leur seule expédition là-bas. Donc voilà, j'ai envie de te dire que le niveau de mystère de cette histoire a été détruit par Colin Summerhays.
Ouais, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui continuent à le croire. C'est une théorie du complot qui est assez populaire, j'ai l'impression.
Et elle est particulièrement, en fait, c'est une théorie qui a la particularité d'être tenace sur le très long terme. Puisque ça a en effet commencé, le livre Je sais que Hitler est vivant est sorti en 47.
Ouais, puis
en 47.
Ce qui est génial, c'est qu'il y a des légendes à l'intérieur de la légende qui viennent se greffer, parce que tu parlais des technologies qui auraient été stockées dans cette base qui donc n'a jamais existé. Hein. Mmh. Mais là, on part sur des délires d'armes de destruction massive et même des ovnis, je trouve ça fou.
Oui, ça c'est... c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, les technologies, on les fantasme complètement en avance sur leur temps. Or, on sait que c'était pas vrai. Et puis surtout, quel intérêt en termes militaires, quand tu sens que ton pays va perdre la guerre, de ne pas les utiliser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si t'as les technologies en question, c'est pas pour les foutre en Antarctique et les laisser geler là-bas pendant des décennies en attendant que le 4e Reich advienne. Donc oui, ça ne tient absolument pas debout. Colin Summerhays, du coup, le dit très bien. L'article en question donc, est en anglais, donc il n'est pas forcément toujours très, très accessible, mais il fait une vingtaine de pages et il démonte point par point, en pointant quand même, comme je le disais, qu'il y a des faits qui sont vérifiés et qui ont eu lieu. Hein. Le potentiel entraînement de l'armée américaine, la première expédition, les essais nucléaires. Voilà, c'est juste que c'est, comme souvent dans les théories du complot, détourné.
Oui, c'est ça. Et puis t'as ça et le fait que c'est quand même tentant, tu sais, d'essayer d'imaginer que peut-être quelque part en Antarctique, il y a une base cachée, tu sais, genre avec plein de poussière, oui, cachée sous la neige, où il y a quelqu'un qui va appuyer sur un bouton, genre en mettant une amulette dessus et ça va s'ouvrir.
Une amulette, non mais attends, on parle de super technologie, là, on n'est pas...
Bah oui, mais tu sais que les nazis étaient très intéressés par l'occultisme, donc ils pourraient mettre de la technologie dans une vieille amulette, tu vois.
Ouais.
Donc, je comprends que ça puisse marcher. Il y a un côté Benjamin Gates, tu vois, là-dedans. Donc, je peux concevoir pourquoi ça et les groupes de néo-nazis qui veulent croire que Hitler a survécu, évidemment. Mais, mais pour les personnes qui ne sont pas néo-nazis, je peux comprendre pourquoi cette légende-là peut avoir autant d'intérêt.
En ce qui nous concerne, on peut dire que l'affaire est classée.
Oui, complètement classée. Le Sweeney Todd français. Au 15e siècle, dans une petite rue au cœur de Paris, un barbier aurait égorgé bon nombre de ses clients. Un pâtissier, installé à côté de son salon, aurait transformé la chair de ses victimes en délicieux pâtés. Alors, vous connaissez sûrement tous Sweeney Todd, le barbier sanglant de Fleet Street à Londres, qui a fait l'objet notamment d'un film avec Tim Burton avec Johnny Depp. Cet homme, voilà, qui aurait égorgé des clients et fourni les cadavres à sa voisine qui en faisait de très bonnes tartes, eh bien, Sweeney Todd, c'est une légende, c'est un personnage de fiction. Mais à en croire certains livres et certains vieux articles de presse, un tueur similaire aurait sévi à Paris dans les années 1430. Et on appelle cette histoire l'affaire de la rue des Marmousets. Selon la légende, le barbier sanglant et le pâtissier auraient sévi dans des commerces qui étaient situés à l'angle de la rue des Marmousets et de la rue des Deux Ermites, sur l'île de la Cité. Alors aujourd'hui, ces rues-là n'existent plus, hein. L'emplacement des deux commerces se trouve sous l'actuel hôpital de l'Hôtel-Dieu, sur l'île de la Cité. Et sa construction, en 1866, de cet hôpital a fait disparaître la rue des Deux Ermites et la quasi-totalité de la rue des Marmousets. Mais voilà, ça c'est pour le petit détail géographie. On va maintenant passer à l'histoire. Putain, je suis content que t'aies dit merci Jamy et pas merci Laurent Deutsch. Parce que...
Ah non, non, oh, et je sais que t'insultes pas les gens sur Twitter. Hein. Attends, <ouais.
rire> on en parlera plus tard de Laurent Deutsch d'ailleurs, j'ai un petit compte à régler. Parce que qui dit légende parisienne dit Laurent Deutsch quelque part évidemment. Alors la légende maintenant. On raconte que dans les années 1430, un barbier meurtrier sévissait dans la rue des Marmousets. Les clients qui avaient le malheur de passer sa porte n'en revenaient pas toujours. De la lame de son rasoir, il leur tranchait la gorge. Il faisait ensuite passer leur corps dans une trappe, et les cadavres tombaient dans la cave de son voisin. Ce voisin, un pâtissier renommé dans tout Paris, hachait la chair des clients, assassiné. Et il la cuisinait pour en faire des pâtés.
Si je peux me permettre, c'est une autre époque que les food trucks vegan. Hein.
Ah oui, ça c'est très différent là. Hein, là
on... C'est une autre époque, hein.
Ah ouais, non, là on est vraiment sur la viande, hein. Et, disait-on, la viande qu'il y avait dans ces pâtés était très goûtue, délicieuse, l'histoire raconte même qu'il y avait foule pour aller les déguster, ces fameux pâtés, car personne ne se doutait du terrible secret du cuisinier. Un jour, un client serait venu chez le barbier avec son chien. L'animal est resté devant la porte, et il a attendu son maître pendant longtemps, pendant très longtemps. On avait beau essayer de le chasser, il revenait toujours, il poussait des hurlements plaintifs. Et la femme du client assassiné, puisqu'il a, vous vous en doutez, été assassiné, a eu quelques soupçons en voyant que le chien restait toujours devant la boutique. Donc elle a prévenu la police. Et après une perquisition, la police aurait découvert l'atroce cuisine des Marmousets en trouvant dans la cave du pâtissier la dernière victime du barbier, encore à moitié dépecée. On raconte que certains clients du pâtissier seraient morts de chagrin en découvrant ce qu'ils avaient mangé. Les deux psychopathes ont ensuite été condamnés à mort, brûlés vifs dans une cage de fer sur la plage publique. Sur la place publique, pardon, c'est pas une plage.
Paris plage publique.
Déjà Paris plage en 1430. Non, ils ont été condamnés à mort. Enfin, ils auraient été condamnés à mort et brûlés vifs dans une cage de fer sur la place publique. Et leurs deux maisons auraient été détruites. Alors tout ça, ça fait froid dans le dos. Mais le problème avec cette légende, c'est que bah, justement, c'est une légende, qui a été largement enjolivée avec le temps, mais qui se base quand même sur un vrai document. Quand même. La première occurrence de cette histoire se trouve dans une chronique qui a été publiée en 1612, donc hein, presque deux siècles après quand même, et on en parle déjà comme d'une rumeur. C'est dans le Théâtre des Antiquités de Paris que l'auteur Jacques Dubreuil écrit, alors on a évidemment francisé, on a mis en français d'aujourd'hui, parce que sinon c'est très compliqué, il a écrit ceci. C'est de temps immémorial que le bruit a couru qu'il y avait en la cité de Paris, rue des Marmousets, un pâtissier meurtrier, lequel ayant aussi en sa maison un homme, aidé par un voisin barbier. De la chair, il faisait des pâtés qui se trouvaient meilleurs que les autres, d'autant que la chair de l'homme est plus délicate à cause de la nourriture que celle des autres animaux. Donc voilà, fin de citation. Vous noterez que là, il n'est pas question de plusieurs meurtres, mais bien que d'un seul meurtre, et pas de la quantité industrielle de crimes qu'on a dans les versions plus actuelles de l'histoire. Et cette chronique-là, de Jacques Dubreuil, elle se base sur une requête pour un permis de construire du XVIe siècle. Au XVIe siècle, Pierre Belu, qui est un conseiller alors du Parlement de Paris, était propriétaire d'un terrain vide abandonné dans la rue des Marmousets. Et il écrit une lettre au roi François Ier. Il explique qu'il ne peut pas construire dessus à cause d'un vieil arrêt des années 1430 qui lui interdit de construire dessus parce qu'il y a un crime atroce qui a eu lieu. C'était comme ça à l'époque, quand il y avait un crime extrêmement atroce, on ne pouvait pas... Donc la maison était rasée, on ne pouvait pas construire par-dessus.
Il y a eu tellement de crimes atroces qu'après on pouvait construire nulle part, donc ils ont arrêté, c'est ça ?
C'est un petit peu ça, parce que ce crime-là, donc celui du barbier, on doutait déjà de son existence à l'époque. Donc le roi François Ier, pour ceux que ça intéresse, lui a accordé son permis de construire, hein, considérant que c'était quand même une des plus vieilles rues de Paris, puisqu'on est sur l'île de la Cité. Ça faisait un peu, c'était un peu dommage qu'il y ait un terrain vague à cet endroit-là. Donc du coup, il l'a autorisé, et ce Pierre Belu a pu construire dessus, tant mieux pour lui. C'est tout, en fait. C'est juste ça. C'est ce document qui dit qu'il y a eu un crime atroce, effectivement, rue des Marmousets, dans les années 1430. Quel meurtre, selon la mémoire publique, que cite Jacques Dubreuil, c'est ce fameux crime du barbier. Mais selon la mémoire publique, qu'on peut considérer avec du recul comme la légende, tout simplement. Et cette légende sanglante, il y a eu beaucoup de transformations successives, déjà sur le nombre de morts, évidemment, qui a augmenté au fil des versions, et jusqu'à atteindre voilà, la quantité industrielle qu'on a aujourd'hui. Il y a aussi le détail des personnes mortes de chagrin, en apprenant qu'elles avaient mangé de la chair humaine. Ça n'y était pas. La découverte par le chien aussi n'y était pas. Il y a des versions qui disent que les victimes étaient des enfants, donc c'était un tueur d'enfants, parce que la chair des enfants est plus délicate.
Donc, c'est voilà, bien connu.
Voilà, non, mais on a plein de transformations comme ça. Il y a aussi une belle démonstration d'antisémitisme à un moment, puisque dans certaines versions, on précise que le barbier est juif,
ouais.
Hein, pour accentuer bien la haine des juifs à l'époque. Donc voilà, et en fait, l'histoire après n'a plus beaucoup changé à partir des années 1860, parce que la presse en a parlé, donc logiquement, dans les années 1860-1870, parce qu'il y avait la construction de l'Hôtel Dieu, donc c'était dans l'actualité. Donc c'était à ce moment-là qu'on ressortait des articles où on parlait des vieilles légendes des rues de Paris, des vieilles histoires des rues de Paris, puisque les rues allaient être détruites, ben c'était la bonne occasion d'en parler. D'ailleurs, je remercie notre auditeur François qui travaille, comme on avait dit assez récemment, pour la BNF et qui nous a envoyé des journaux de l'époque que j'ai pu consulter. Donc on voit ces histoires, c'est assez marrant. Alors souvent c'est la version la plus trash qui est racontée, évidemment, mais la plupart des journaux prennent quand même leur distance et parlent de légendes ou de rumeurs. C'est le cas pour les exemplaires du Petit Journal et du Journal des Coiffeurs aussi, intéressant, de 1864, qui prennent vraiment du recul. C'est deux des journaux du corpus que nous a gentiment envoyé François, que j'ai pu consulter, qui parlent voilà, bien de légendes, de rumeurs, tout en racontant la version la plus sauvage, un petit peu comme nous aujourd'hui finalement.
Ouais.
Alors en fait, voilà, il y a eu des ajouts au fil des années, et récemment, nous avons un cher monsieur du nom de Laurent Dutch, qui a apporté sa pierre à l'édifice, en racontant absolument n'importe quoi dans Métronome. Donc voilà, il raconte évidemment la version la plus délirante de la légende, donc celle qu'on vient de vous dire, sauf qu'il a déplacé l'emplacement et il dit que ça se passe rue Chanoinesse à Paris. Donc la rue Chanoinesse, c'est la rue qui a été créée à partir d'un ancien segment de la rue des Marmousets.
D'accord.
Mais ça ne s'est absolument pas passé à cet endroit, hein, historiquement c'est actuellement sous l'Hôtel Dieu, donc c'est pas du tout là. Mais sauf que lui il dit si c'est là, et puis il donne même les numéros, hein, il dit que c'est au 18 et 20 de la rue Chanoinesse. Qu'il y avait les boutiques dans cette rue, donc il dit ça sans aucune preuve, évidemment. Et il assure même qu'on peut encore trouver la pierre sur laquelle le pâtissier découpait les cadavres.
Oula,
fou, hein.
Il va loin.
Ouais, il va très loin. Et comme Métronome c'est très bien vendu, hein, beaucoup de tirages, beaucoup de gens pensent que c'est vrai, mais en fait c'est totalement faux. Donc j'avais envie de rétablir ceci. Voilà, l'histoire, bien qu'elle soit séduisante, de l'affaire de la rue des Marmousets, c'est tout simplement un crime atroce qui s'est passé dans les années 1430, lequel on ne sait pas vraiment. Est-ce vraiment un barbier qui a égorgé quelqu'un et son voisin pâtissier qui en a fait un pâté un jour? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça n'a absolument rien à voir avec cette image Sweeney Todd qu'on lui donne aujourd'hui, comme si c'était vraiment un commerce. Parce qu'il y a des versions qui disent qu'il y avait un foyer d'étudiants à côté, et que, en fait, quand les étudiants venaient se faire... tailler la barbe chez le barbier, en fait, il les tuait à ce moment-là. Donc, comme si le barbier avait un vivier inépuisable de jeunes, ouais, qui arrivaient tout le temps à Paris, qui pouvaient tuer, qui disparaissaient sans qu'on se pose de questions. Donc, en fait, non, tout ceci ne s'est jamais produit, tout simplement. Mais cette légende est une des légendes les plus anciennes, les plus courues de Paris, et j'avais très envie de la raconter dans le Bureau des Mystères.
Et dans ta face, Laurent Dutch.
Et dans ta face, Laurent Dutch, effectivement. Donc voilà, le niveau de mystère aujourd'hui est un peu moyen, hein, parce que en fait on saura jamais vraiment si vraiment il y a un barbier qui a tué quelqu'un et son voisin qu'on a fait des pâtés, parce que c'était quand même il y a beaucoup de temps, hein, cette histoire, c'était il y a 6 siècles quand même. Donc voilà le seul document officiel qui parle d'un meurtre, il y a pas de détails, dit juste que la maison a été rasée, que le terrain était inconstructible, c'est juste un permis de construire en fait.
Ouais, d'accord.
Donc voilà, à part la rumeur rapportée par Dubreuil en 1612, qui a ensuite été transformée, il n'y a pas de fond historique sur cette histoire.
Très bien, et bien du coup c'est une belle légende.
Et surtout, voilà, n'allez pas rue Chanoinesse pour essayer de voir la pierre sur laquelle le pâtissier tuait les cadavres, Ce n'était pas là.
Plus.
C'est sous l'Hôtel Dieu. Donc voilà, n'y allez pas. Ne vous embêtez pas à faire ça. Et n'allez pas embêter la police qui est installée là-bas, puisque je crois qu'actuellement, au 18-20 de la rue Chanoinesse, il y a un poste de police. Oui. Donc n'allez pas embêter ces pauvres policiers en disant « Alors, c'est où que le pâtissier, il a tué des gens ?» Non, voilà, c'est pas là.
C'est pas là. Ah, du coup, je pense qu'on peut classer l'affaire.
On peut complètement la classer.
Le mystère du village endormi. Il existe un village kazakh au milieu des steppes qui, depuis 2010, voit des dizaines de ses habitants s'endormir sans prévenir alors qu'ils se baladaient ou qu'ils étaient en train de travailler. Nous sommes donc à Kalachi, un petit village donc situé au nord du Kazakhstan, dans le district des îles. Nous sommes donc dans le nord du pays, hein, comme je disais, au milieu des steppes, donc plutôt proche de la frontière russe. Il s'agit d'un tout petit village hein, qui ne compte que 680 habitants, mais qui a une particularité locale assez impressionnante, hein, puisque le village voit ses habitants s'endormir brusquement alors qu'ils sont en pleine activité, qu'ils discutent avec leurs amis. Le mystère a débuté en 2010 et s'est amplifié à partir de 2013, sans pour autant qu'il y ait une explication qui soit donnée. Chose particulièrement étrange, ces crises de sommeil soudain semblent arriver par vagues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas isolé, il n'y a pas une personne dans le village qui à un moment donné s'endort et il se passe 3 semaines sans qu'il se passe rien. Non, c'est souvent par vagues. Les pertes de connaissances, puisqu'il s'agit quand même de vraies pertes de connaissances, sont assez conséquentes, hein, puisque certaines personnes pouvaient ne pas se réveiller pendant 2 à 6 jours. Et chose encore plus étrange, les personnes âgées et les jeunes enfants victimes de ces crises ont des hallucinations. Dire que des habitants prennent donc logiquement la décision de quitter le village puisqu'ils commencent à avoir peur. Et c'est le cas notamment d'une femme qui est partie hein, de Kalachi, elle a une 30aine d'années. Et sa jeune fille avait 4 ans. Et un jour, sa jeune fille s'est mise à pleurer en lui demandant pourquoi sa maman avait 3 yeux. Ou pourquoi quelque chose rampait sur le radiateur.
Ça fait trop peur. Genre de vision d'enfer, ça me rappelle l'histoire que tu racontais sur Pont Saint-Esprit dans le numéro 0.
Ouais, c'est exactement. Ouais, hyper exactement. Ouais. Et donc la petite fille ne comprend évidemment pas ce qu'elle voit, et du coup la maman décide, hein, vu que ce n'est pas le seul cas, non seulement de crise de sommeil, mais en plus d'hallucination, elle décide assez logiquement de quitter le village. Prenant connaissance de ces faits, beaucoup de scientifiques sont allés sur place pour tenter de comprendre ce qu'il se passait. Et ils ont commencé à élaborer évidemment plusieurs théories. Et parmi ces théories émergentes sur les possibles raisons de ces soudains accès de sommeil, certains médecins avaient notamment mis en avant l'idée de la vodka frelatée. Alors la vodka frelatée, c'est pas une métaphore ou quoi que ce soit, c'est pas un nom funky, hein, c'est bien la boisson, la vodka, qui, si elle est impropre à la consommation, peut avoir l'effet d'un sédatif.
Et alors du coup, on a du mal à imaginer des enfants en train de boire de la vodka frelatée.
Exactement. C'est-à-dire que c'est là que la théorie est finalement assez rapidement abandonnée. C'est que certaines personnes, et notamment les jeunes enfants, ne présentaient pas de traces d'alcool dans le sang. Et même des adultes d'ailleurs, des adultes et des personnes âgées, ne présentaient pas de traces d'alcool dans le sang. Donc c'est une théorie qui a été rapidement abandonnée. Autre théorie, celle d'un trouble psychologique, un genre de psychose partagée. Il faudrait qu'une grande quantité de ses habitants du coup aient été victimes de ces troubles et développent, disons, les mêmes symptômes, hein, ce qui semble assez peu probable. D'autant plus que quand cela arrive, c'est sur des communautés extrêmement fermées. C'est-à-dire que quand ça arrive sur des grands groupes, il faut que ce soit vraiment des gens qui ne vivent que en communauté, qui s'isolent du monde. Or là, il s'agissait d'un village qui est certes géographiquement éloigné, mais qui n'est pas absolument pas coupé du reste du monde. Donc il y a des tests bactériologiques qui ont été effectués, des tests viraux, des études de sol, des études d'air, des tests sanguins. Et finalement, première hypothèse peut-être plus crédible, ces tests ont porté les soupçons sur la ville fantôme de, et attention à la prononciation, Krasnogorsk.
Bravo.
Qui est, voilà.
On sent que tu l'as répété,
qui est en fait,
celui-là.
Exactement, ouais, ça fait l'objet d'un entraînement. Qui est collé au village de Kalachi. Et ce village donc de Krasnogorsk, il a une histoire, puisqu'au plus haut des tensions de la guerre froide, Krasnogorsk était une zone très secrète. Il y avait à l'époque 6500 résidents qui travaillaient tous au même endroit, une mine d'uranium. En 1991, la mine a cessé d'être exploitée, alors du jour au lendemain. La ville s'est trouvée du coup absolument sans travail, donc les habitants ont complètement déserté la ville. Et aujourd'hui, actuellement, la population est tombée à moins de 200 habitants. Donc c'est vraiment, ça a vraiment l'aspect d'une ville fantôme. Et une hypothèse, comme je vous le disais, un petit peu plus crédible, va émerger après étude de la mine et étude de l'air qu'il y a autour de la mine, c'est que l'uranium extrait contenait du radon. Alors, le radon, apparemment, ce que j'ai compris, ce n'est pas radioactif, c'est juste l'évaporation d'un type de gaz qui viendrait de la mine d'uranium du fait qu'elle aurait été exploitée. Et qu'elle aurait été, mise à ciel ouvert. Un des gaz qui s'échappait de la mine d'uranium était du radon. Sauf que cette hypothèse a encore un petit problème. Puisque quand du gaz comme le radon est utilisé, en principe, c'est un monsieur anesthésiste qui, dans l'article du Monde dont est tirée cette histoire, était interviewé, qui disait que la personne se réveille normalement dans les 1 à 2 heures après qu'elle ait été en contact avec du radon. Or, comme je le disais ici, c'est plutôt sur des périodes de plusieurs jours. Alors finalement, comment on peut résoudre cette affaire qui a l'air assez insoluble et qui a en fait laissé les scientifiques pantois pendant des années, hein. Ça a commencé en 2010. Les premières études ont été publiées, il me semble, il y a 2 ans. Et c'est finalement, il y a quelques semaines, quelques mois, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'une autre hypothèse assez solide a vu le jour. Et elle n'était pas facile à trouver. Ce sont les autorités kazakhes qui ont sans doute percé le mystère, puisque la mine d'uranium donc, laisse s'échapper en effet du radon, mais en quantité trop faible. En revanche, la mine, du fait qu'elle était abandonnée du jour au lendemain et qu'elle ait été, disons, laissée à ciel ouvert, a encore des effets sur l'environnement et l'atmosphère. Et des tests ont notamment révélé que lorsque le taux de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures augmente dans l'air autour de la mine, le niveau d'oxygène descend drastiquement dans le village. Donc ce qui commence à pouvoir expliquer quelque chose. Et c'est notamment...
Les hallucinations déjà, effectivement, les hallucinations, les évanouissements. Oui. C'est vrai que le manque d'oxygène peut créer ce genre de choses.
Le manque d'oxygène, surtout s'il est remplacé avec du monoxyde de carbone ou des hydrocarbures qui, voilà, peuvent être multiples. Et c'est notamment Sergueï, là attention au nom, Loukachenko, qui est le directeur adjoint du Centre National de Sécurité Nucléaire, qui a déclaré que le phénomène, et je cite, est déclenché par une combinaison de 3 facteurs. 1, le manque d'oxygène, plus un excès de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures. Chacun, en fait, des 3 composants, pris séparément, est à un niveau normal. Donc, en fait, pendant longtemps, il ne pouvait pas comprendre, comme il dit, la véritable origine de la maladie, parce qu'en fait, déjà, ce n'est pas une maladie. On a tenté de l'expliquer comme une maladie, mais ce n'en est pas une. Ce sont des causes environnementales. Mais quand il y a une combinaison de ces 3 facteurs, il y a ce qu'il appelle un effet synergique classique qui fait qu'il peut y avoir ces crises et ça explique notamment le fait que ça a été par vagues, puisque en fait c'est dépendant de l'environnement et de facteurs météorologiques. Si à un moment donné il y a de l'humidité ou des différences de température qui peuvent réactiver certains gaz de la mine, eh ben, on peut observer ce type d'effet et du coup d'où l'explication par vague. L'évacuation a du coup été ordonnée par les autorités et donc là c'est selon le Siberian Times, 68 des 223 familles ont déjà été relogées. Et les autres doivent être déplacés d'ici 2019. Donc j'ai envie de dire que le niveau de mystère est retombé aussi bas que le niveau d'oxygène de Kalachi.
Donc très bas, effectivement.
Donc très bas. Puisque,
oh, que c'est finement écrit, ça.
Puisque les autorités kazakhs ont vraisemblablement trouvé la raison, sans pour autant résoudre le problème. C'est-à-dire qu'ils vont sans doute être amenés à simplement déplacer le village.
Oui, bah c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, oui, comment tu fais remonter le niveau d'oxygène dans une zone entière.
Et ouais,
quand il y a un problème comme ça, c'est compliqué. Ouais, non,
et puis même, apparemment, la mine était quand même 6500 personnes qui travaillaient dans la mine. Elle avait plusieurs ouvertures. Ça doit être sans doute très difficile à boucher. Ils peuvent absolument pas le faire sauter. Ce serait trop dangereux. Du coup, j'ai envie de dire, pour nous, affaire classée, mais pour eux, il va falloir attendre jusqu'à encore 2019 avant que toutes les familles puissent être relogées.
Mais malheureusement pour elles, effectivement.
De manière convenable.
Mais en tout cas, pour nous, en termes de mystère, le mystère est levé et l'affaire est donc classée. Cette session de travail du Bureau des Mystères est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir écouté.
Le Bureau des Mystères est un podcast Riviera Ferraille, et à ce titre, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook Charles et Mathias, sur Twitter, à notre compte @BDM le podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site Riviera Ferraille, vous pouvez nous laisser des reviews positives sur Apple Podcast et nous faire des bisous sur SoundCloud.
Et en attendant, faites bien attention à la composition de votre pâté.